Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca. Bonne journée tout le monde. Comme à chaque jeudi, on est avec notre ami Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Jérôme, il s'est passé quand même plusieurs choses dans l'actualité, des sujets que j'ai gardés, mais sur l'actualité de Libre Média comme telle, vous avez lancé un balado, hein, comme on dit dans les bons milieux francophiles. Donc, vous avez lancé un podcast qui s'appelle Le Libre Podcast. Donc, c'est animé par Francis Denis avec une candeur que ma foi qui est quand même de très loin supérieure à la mienne en termes techniques. Donc, j'aime son style, honnêtement. Là. Je me moque un peu, mais c'est amical. J'aime ce style. Il y a un style très, très européen dans sa manière d'animer. Je trouve ça bon. Donc, vous, ce que vous faites, c'est qu'une fois par semaine, je pense, vous enregistrez le Libre Podcast. C'est lui et toi et vous discutez de, bon, en gros, c'est quoi les points forts de la semaine dans l'actualité de Libre Média, si j'ai bien compris votre formule.
Oui, c'est ça. Puis des fois, on va avoir des invités, comme la semaine dernière, on avait notre correspondant en Ukraine actuellement, notre envoyé spécial Alexis Brunet. On avait aussi Philippe Soro 5 mars, là, un essayiste. C'est lui, c'est le acteur en chef de Québec Nouvelle pour nous parler de la loi C-63, projet de loi C-63, projet de loi extrêmement préoccupant quant à la liberté d'expression. Donc, la formule, c'est oui, revenir sur, comme tu le dis bien, les points forts de l'actualité de Libre Média de la semaine. Donc, on fait effectivement un tour d'actualité à partir de Libre Média, mais on ne se limite pas non plus au contenu qu'on a fait, qu'on a publié. Puis, c'est publié, en fait, c'est diffusé chaque vendredi après-midi, fin d'après-midi. Donc, c'est disponible pour le début de la fin de semaine. Donc, surveillez ça. On a quand même déjà des bonnes statistiques. C'est le fun. Les gens ont embarqué assez vite. Je pense qu'on a pu accrocher assez vite notre auditoire. Puis, ça permet d'aller chercher aussi des gens qui peut-être consultaient moins le site. On sait que, bon, les nouvelles écrites, les articles écrits, c'est un créneau. Ouais. Nous, on a beaucoup, on est évidemment à la base de Libre Média, c'est la presse écrite. Mais on le sait, vous êtes très, très bien placé pour le savoir. Ouais. Le podcast, le format audio, radio, et c'est probablement le plus consulté. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques à l'échelle mondiale, mais on s'entend. L'audio, le vidéo, enfin, ça, c'est vraiment 100% audio, par contre, ce podcast-là.
Oui, absolument, qui est disponible sur Apple Podcasts. Je le dis pour les auditeurs, des fois, il y en a qui le cherchent. Donc, si vous écoutez via Apple Podcasts, c'est disponible. C'est disponible, évidemment, sur Spotify, qui domine pas mal le marché, en tout cas en Amérique du Nord. Même Amazon Music, TuneIn Radio, vous l'avez sur d'autres apps un petit peu moins connues, là, comme Podchaser ou Boomplay. Donc, ça se trouve relativement facilement, le podcast. Donc, on invite les gens à aller voir ça, le Libre Podcast. C'est un produit intéressant pour vous autres. Puis c'est que le format RSS comme tel, là, uniquement audio que les gens peuvent écouter sur leur téléphone, tout ça, c'est quand même, il y a encore quand même une grosse croissance de possible dans ce milieu-là parce que je me souviens peut-être un an ou deux, j'avais regardé les statistiques là-dessus et puis. T'sais, on n'est même pas à un Canadien sur deux qui sait c'est quoi un podcast là, au Canada.
Ah oui, OK.
Donc, il y a encore beaucoup, malgré, on dit souvent les médias traditionnels sont en déclin et tout ça, mais oui, mais le déclin est quand même long. Là. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne savent pas trop c'est quoi un podcast, ou n'en ont entendu vaguement parler, mais sont plutôt encore, ils écoutent le 98.5 à Montréal, ou ils écoutent, je ne sais pas, ici Radio-Can.
Puis j'ai le feeling qu'une partie de ces gens-là vont mourir en ne sachant toujours pas c'est quoi un podcast.
Oui, probablement aussi.
J'ai de la famille plus éloignée, des oncles et des tantes, qui pensaient qu'il y avait une différence entre un podcast et un balado. Là, fait que... À part qu'un est subventionné et l'autre ne l'est pas. Là, mais ouais, ça, c'est ça.
Non, c'est ça. Donc, c'est un ça faisait longtemps que vous y pensiez à lancer ça ou c'est arrivé un peu comme ça parce qu'on n'en avait pas parlé précédemment?
Ben, c'était quand même, mettons, une étape naturelle pour nous. Ça vient comme compléter un peu l'éventail de ce qu'on fait. On a beaucoup de vidéos. Ouais. Les grandes entrevues, ce qu'on appelle les couvertures spéciales aujourd'hui. Donc, tu sais, quand par exemple, là, hier, j'ai fait une entrevue avec un politologue sur Haïti. Donc, ça, c'est les couvertures spéciales, c'est quand on couvre d'actualité vraiment là, du moment. Donc, avec un intervenant, j'ai fait sur l'Équateur récemment. Les grandes entrevues, bon, mais ça, c'est avec c'est filmé professionnel. Les couvertures spéciales, bon, c'est plus. Avec les moyens comme ceux qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on a le vidéo sur YouTube, on a évidemment le volet écrit, il manquait, je pense, l'audio. Et il faut le dire, c'est à l'initiative de Francis Denis, qui est mon co-animateur du podcast. C'est vraiment à son initiative qu'on a lancé ça. Moi, il faut dire, j'étais pas mal déjà occupé, mais il m'a convaincu que oui, ça allait compléter l'éventail. Puis je suis d'accord, je pense qu'écoute déjà... On a déjà plus de, je pense, 2000 visionnements là, par épisode, les deux. Donc, on est déjà, je pense, on est déjà fidélisé en quelque sorte, là, je pense, l'auditoire. Puis c'est ça, bien. Ça vient compléter la diversité de formats qu'on a à Libre Média.
Oui, puis honnêtement, vous ferez faites le test, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est justement ça le point. Comparer le degré d'attention que vous avez lorsque vous regardez une émission comme présentement ou si vous nous écoutez par RSS. Ça dépend des types de personnalités, mais personnellement, pour moi, lorsque j'écoute seulement, mon attention est portée davantage sur le contenu que sur des détails insignifiants. Lorsqu'on regarde une conversation entre des gens, là, il y a des gens en ce moment qui regardent et essayent de savoir c'est quoi la boîte qui est là. Tu sais.
C'est quoi la boîte qui est là, Frank? C'est quoi cette affaire-là?
C'est quoi cette affaire-là? Les gens essayent de voir la marque du rideau en arrière. Là. Il y a
jouer
gens
une
qui...
calotte
c'est
installée.
C'est ça. Puis là, les gens sont comme, ah, c'est quoi la marque de la chemise de Jérôme? Il y a comme un petit carré rouge. C'est fait que puis c'est pas mal intentionné.
Chemise d'extrême droite.
Ça, c'est une chemise extrême.
Wrangler, imaginez-vous, cowboy, extrême droite, Texas, tout le champ lexical est bon.
Absolument.
Pour décrire mon appartenance au camp réactionnaire.
Mais tu sais, ça peut paraître un peu frivole comme critère, ce que je viens de dire, mais c'est vrai. C'est que notre attention, lorsqu'on regarde la télé ou on regarde un podcast sur YouTube, whatever, est très facilement captée par des détails un peu insignifiants. T'sais, on se rappelle du débat. Imaginez que vous écoutez le débat entre Mike Pence et Kamala Harris à la radio. Il n'y a pas personne qui parle de la mouche sur la tête de Mike Pence ou de la goutte de teinture de Rudy Giuliani dans une conférence de presse. C'est le visuel capte des éléments qui sont non nécessaires souvent à la compréhension d'un propos. Puis ça, quand on fait le test d'écouter comme faut un podcast uniquement en audio, on se rend compte que notre compréhension de ce qui est raconté est un peu différente, je trouve, de la vidéo. Ça nous amène au premier article. En fait, il y a deux trucs dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, puis c'est deux papiers que tu as écrits dans Libre Média. Le premier, c'est ton éditorial de la semaine que j'ai trouvé particulièrement délicieux en vertu des événements récents. Donc, les gens le savent, là, il y a des vagues de démissions et de plaintes chez des élus municipaux, entre autres, la mairesse de Gatineau, le maire de Québec qui est pris avec une histoire. Hier ou avant-hier, je voyais le maire des Éboulements dans Charlevoix qui démissionne en disant que c'est vraiment épouvantable. Là, des gens
c'est trop dur.
Oui, il y a des gens qui entretiennent des climats vraiment toxiques, genre ils questionnent son salaire et ses décisions.
Ah ouais, les incivilités, le nouveau terme. Les incivilités sont en hausse. Là,
les incivilités, ça c'est un terme beaucoup qu'on utilise en France, mais pour décrire plutôt des actes...
C'est un peu comme dans la COVID. C'est un peu comme dans COVID, Jérôme. On attend 2-3 semaines, puis on copie ce que la France fait. Fait que c'est assez spécial.
Non, c'est ça.
Ben, ouais, donc, mais là, c'est mal appliqué. Incivilité, c'est fort. Là. C'est un terme qui n'est pas approprié.
Demande-en pas trop aux dômes, Jérôme. Là. On fait ce qu'on peut. Là.
Non, c'est ça.
Donc là, le ton éditorial s'intitule « La démocratie, c'est trop dur ». J'ai trouvé ça absolument délicieux comme texte. Peut-être nous expliquer un peu quel était l'objectif et le sens du propos là-dedans. Moi, je le sais puisque je l'ai lu, mais je trouve que ça vaut la peine de le répéter. C'est assez... je pense que c'est très juste là, ce que tu décris là-dedans. Là.
Ben, c'est la logique du safe space. Hein? Donc, cette espèce de tentation de faire de l'espace public un safe space, donc un espace sécuritaire. Et là-dedans, tu as une sorte de rejet de la démocratie qui est par nature conflictuelle. Donc, on se retrouve avec des élus qui sont à l'image de beaucoup de gens et à l'image du Québec actuel extrêmement fragiles, psychologiquement fragiles, qui n'ont peut-être pas les capacités pour assumer leurs fonctions. Et là, je ne veux pas aller trop loin parce que, bon, je ne veux pas choquer trop de gens, mais on a un peu l'impression qu'au Québec, on est en train de subventionner la carrière de gens trop faibles pour assumer leurs fonctions. Donc, moi, je n'ai pas à sortir de l'argent de ma poche pour vous payer un psychologue parce que vous êtes trop faible pour être élu municipal. Je suis désolé de vous le dire. Puis je ne dis pas que, comme je le mentionne dans l'éditorial, c'est pas il ne s'agit pas de défendre les insultes sur les réseaux sociaux. Puis on sait que les réseaux sociaux ont amené une nouvelle dynamique. Là. On le sait, là, les gens, les comptes anonymes. Donc, c'est sûr qu'on peut recevoir plus d'insultes. Nous, comme chroniqueurs, Joey, Frank et moi, on le sait. Bon, les comptes anonymes, bon, la multiplication des insultes, bon, c'est quelque chose avec qui est déplorable, mais il y avait quelque chose avec lequel il faut composer. Il ne s'agit pas non plus d'offrir au lynchage les élus, mais de constater que c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de composer avec une certaine adversité, de composer aussi avec la discussion démocratique, c'est-à-dire que vous devez être capable de composer avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Et là, on constate qu'il y a plein d'élus municipaux qui, eux, croulent, qui cèdent face à la pression. Mais la pression de quoi? La pression du débat démocratique. Là. Donc, je pense que l'angle est assez nouveau.
Jérôme, relativement insignifiant, il faut se le dire. Tu sais, on s'en parlait en privé, puis c'est ce que je te disais. Je disais, tu sais, ces élus-là essaient d'amener le narratif comme quoi ça n'a jamais été aussi pire. C'est épouvantable. Avant, on vivait dans la paix. C'est une espèce de mythe là, qu'avant, on vivait dans la paix et l'harmonie. Et depuis quelques années, le climat est absolument dégueulasse. Et moi, je me dis, mais est-ce que ces gens-là ont un minimum de culture historique? Est-ce qu'ils savent ce que les élus du passé ont vécu? Est-ce que Mme Plante, qui trouve elle aussi que c'est donc bien insupportable ce qui se passe avec les citoyens mécontents, est-ce qu'elle sait que dans ses prédécesseurs, il y a déjà un maire à Montréal que pour avoir désincité les citoyens à s'enrôler dans l'armée lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est fait arrêter par la GRC et sacré dans un camp de prisonniers. Tu sais, c'est ça. Il faut quand même se rappeler c'était quoi le passé. Là. Le passé, pas si lointain que ça, on parle des années 40. Tu sais, les élus du passé avaient à faire face, ils ont eu à faire face à des guerres mondiales, ce genre de trucs-là. La conscription, la crise d'octobre. Tu sais, il y a eu plein d'événements quand même incroyables là, dans notre histoire, malgré qu'on n'a pas vécu nécessairement ce qu'il n'y a pas eu d'occupation comme en Europe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez que des élus par le passé ont dû faire face à des difficultés incroyables, mais faisant en sorte que certains d'entre eux ont pu être arrêtés, enfermés sans trop de motifs et autres. Et là, on a des maires qui nous disent, en gros, j'ai voulu faire une piste cyclable, puis il y a des citoyens qui m'ont dit de manger de la merde. C'est là qu'on est, là, je veux dire. Est-ce que les gens se rendent compte à quel point c'est absurde? Là?
Beaucoup de victimisation. C'est une époque très paradoxale parce qu'on sait, ce sont ces gens-là aussi, c'est le même profil de gens qui va défendre l'envoi de plus d'armement en Ukraine. Donc, tu sais, tu dis... Non, mais c'est les mêmes. Hein? Tu sais, lu Stéphanie Ingraman à la presse, tu sais, les va-t-en-guerre actuels sont les plus faibles de la gang. Là. Donc, on veut vraiment les voir au front. Ils doivent montrer l'exemple.
C'est va-t-en-guerre sur mon terrain. Hein. C'est, hein, Jérôme, c'est partout sauf chez nous. Là. Not on my yard.
Oui, safe space au niveau municipal, mais on serait prêt à s'engager dans l'escalade ukrainienne, la poudrière ukrainienne, Et donc, le message derrière ça, c'est que la démocratie, c'est dangereux. Hein. C'est-à-dire, la démocratie, on est en train d'amener l'idée tranquillement, et ça, c'est assez nouveau là, quand même, que la démocratie, l'espace de délibération, ça amène des climats toxiques, comme on dit, c'est un concept très à la mode. Là. On sait que tous les climats, tous les milieux de travail sont rendus à vrai toxiques. Parce que le seul fait d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre est devenu toxique. On ne tolère même plus la présence de l'autre à tel point, on est tellement sombré dans un individualisme tellement radical que le simple fait d'être en relation avec la société est devenu une micro-agression.
L'existence de l'autre est une micro-agression.
La société te micro-agresse continuellement. Donc, on ne tolère plus la dissidence, mais vraiment carrément la mise en relation. Là. C'est assez incroyable. Et ça, c'est un message qui est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si c'est très pernicieux. La démocratie, c'est dangereux, donc il faudrait peut-être la restreindre pour votre santé mentale. C'est beaucoup plus confortable de vivre dans le consensus, on l'a vu durant la crise sanitaire. L'unanimité, la gouvernance, Alain Deneau, le philosophe de gauche, écrit un très bon livre, c'est intéressant. Lui, c'est probablement un des meilleurs penseurs de gauche, là, ou un des seuls, en fait, qui réfléchit pour vrai, là, au-delà du wokisme qu'on connaît. Non, il faut lire Alain Deneau, vraiment quelqu'un d'important. Donc, la gouvernance, hein, c'est-à-dire, on fait croire aussi qu'il y a un consensus sur plein de sujets. Donc, vos propos ne sont pas basés sur le consensus scientifique. Donc, ça n'a pas lieu d'être dans l'espace public. Donc, c'est une manière...
Le corollaire de ce que tu dis, c'est un peu aussi l'avènement de plus en plus d'une espèce de... T'en parlais justement dans ton grand entretien avec Étienne Beauregard. J'ai escamoté son nom.
Oui, grand entretien. Étienne-Alexandre Beauregard.
Oui, Étienne-Alexandre Beauregard. Je m'excuse, j'ai brisé un peu son nom.
Fier membre du Club des Lorangistes.
Mais ce qu'il disait dedans, c'est... Ce que tu lui disais à un moment donné, c'était justement l'avènement d'une espèce de technocratie. Là. Et on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que la démocratie est presque maintenant vu comme un obstacle au règne des experts. Et ça, c'est de plus en plus patent, c'est-à-dire que les gens le veulent ou pas. Oui, mais est-ce que vous avez des études? Est-ce que vous avez... est-ce que les experts pensent... Et je vois de plus en plus des gens... tu vois, l'autre fois, il y avait des gens de gauche sur X qui discutaient et la discussion, je m'amusais à épier de manière morbide leur conversation. Et ils disaient, entre autres, comment se fait-il que sur une chaîne d'information publique, il y ait des chroniqueurs qui donnent leur avis sur des sujets de société alors qu'ils ne sont pas des experts? Donc, si, mettons, la question est sur le décrochage scolaire, on va dire, ben pourquoi est-ce que les gens qui sont là ne sont pas uniquement des spécialistes en pédagogie de l'université McGill ou l'UQAM ou je ne sais pas quoi? Comme si, maintenant... l'avis des gens ne comptait plus, l'opinion de la population n'est plus importante. C'est que les gens veulent ou pas un transport en commun ou qu'ils veulent ou pas un pont, une route ou qu'ils veulent ou pas X, Y décision, c'est plus ou moins rendu important. Ce qui est important, c'est est-ce que les experts et la science est d'accord avec ça? Moi, je trouve ça inquiétant.
C'est ça, l'expertocratie. Oui, ça participe de ça. Il y aurait tout un essai qu'on pourrait écrire sur le sujet. Dans le fond, un expert, c'est quoi? C'est un clerc. C'est-à-dire, c'est un membre du clergé qui est autorisé, lui, qui a reçu l'imprimature et qui est autorisé à propager la bonne nouvelle, en gros. Là, t'sais, y a pas, la différence entre un expert et quelqu'un comme moi, pourquoi moi, je serais moins expert? T'sais, j'ai étudié longtemps. T'sais, on n'est pas moins expert que personne. Après, bon, c'est vrai que des sujets aujourd'hui qui nécessitent un certain nombre de connaissances scientifiques, comme la crise sanitaire, c'est un bon exemple, là, puis les changements climatiques. Mais on ne peut pas justifier la confiscation du débat au nom du manque de connaissances de la population. Là. C'est exactement comme l'Église catholique, les fidèles, c'est-à-dire les catholiques, eux, n'étaient même pas tenus de lire la Bible. Hein. C'est les protestants qui ont inventé ça. Donc, les protestants ont emmené l'idée que tout le monde pouvait avoir sa Bible.
Oui, pas besoin d'intermédiaires.
C'est ça. Après, c'est vrai que la Bible aussi, c'est un texte extrêmement compliqué. Puis bon, c'est une thèse de doctorat sur chaque verset. Là. Mais vous comprenez, là, c'est-à-dire vous êtes finalement des pas bons. Là. Vous êtes une gang de pas bons, puis nous autres, on sait de quoi on parle. Ben, en gros, c'est le message qu'on a reçu assez souvent les dernières années. Là.
Ben oui, puis il y avait un texte l'autre fois d'une chroniqueuse dans le Journal de Montréal qui disait... c'était absolument méprisant. Là, il disait, elle parlait de l'éternel débat à Québec sur c'est ce qu'ils font, un troisième pont ou un tunnel, whatever. Et elle disait, par rapport aux consultations publiques, la CAQ va faire, elle disait, bon, on va laisser aux soins de Mme Tartampion. On va demander à Mme Tartampion ce qu'elle pense de la mobilité puis tout ça. Tu sais, sous-entendu, le citoyen n'a pas à être consulté pour ce qui se passe dans sa propre ville. Il doit payer ses impôts, payer ses taxes, attendre que les experts lui disent ce qui est bon pour lui et finalement hocher du bonnet, acquiescer à ce que le règne des experts lui dit. Mais en même temps, tu te dis, mais moi, je veux bien que vous défendiez ce modèle-là, mais arrêtez de nous dire qu'après ça, vous êtes des remparts de la démocratie. C'est ça le paradoxe, c'est que ces gens-là passent la moitié de leur journée à nous dire que Donald Trump est une menace à la démocratie, Pierre Poilievre menace la démocratie, les fake news sur Internet menacent la démocratie, moi, toi, Joey, peu importe, les gens qui nous écoutent, vous êtes tous des menaces à la démocratie. Et l'autre moitié de la journée, ils nous disent qu'il ne faut plus écouter ce que les gens ont à dire, il faut que ce soit le règne des experts. Ben là...
Ah non, puis avec cette logique-là, je vais faire un jérômisme. On serait jamais allé sur la Lune si on aurait suivi cette logique-là. Tu sais, Kennedy, we will go to the moon. Sont où vos études? Qu'est-ce que ça apporterait à l'humanité d'aller là? Tu sais, mais là, que les gens. On a-tu besoin de tant que ça? C'est tellement stupide. C'est tellement. Autant que oui, il faut pas. Quand on fait un projet ou whatever, ça prend toujours un plan clair et précis. Il ne faut pas que tu y fasses ça la petite semaine, puis tu y vas avant comme je te pose, puis que ça soit écrit sur un coin de table. On comprend ça. Mais quand, tu sais, tout est, m'a dit comme, on va prendre Kennedy, tout est impossible jusqu'à quand ça devient possible. Puis venez pas me dire que, à cause de la faille de Logan, puis des niaiseries du genre, puis l'affaire de mobilité, le monde en veut le Christi de troisième lien. Checkez vos deux ponts en décrépitude. Ça convainc moins que vos esprits d'études environnementales de schnout. Le monde en veut l'un. Donnez-leur sa cravesse. Surtout en plus que la logique précède, puis la logique géographique précède en plus la volonté des citoyens. Mais la théorie que j'ai toujours amenée, puis la raison pourquoi beaucoup se demandaient pourquoi le monde politico-médiatique montréalais ont tellement haï l'idée d'un troisième lien à Québec, c'est que pour une fois, la population, le grassroots, les racines, le plancher des vaches est exprimé. La CAQ a pris la balle au bon. Oui, ils nous ont trahis par après. Mais eux autres, c'est comme si ils ont leur échiquier avec leur pion. OK, parfait, on va faire une petite chronique un matin. On va pousser cette idée-là. Puis là, les ministres vont en parler en chambre. Ils vont dire que c'est une bonne idée. Mais là, tout d'un coup, il y a un nouveau pion qui embarque sur le board, mais tu ne peux pas le contrôler. Il commence à bouger. Tu dis, hey, ça sort de où ça? C'est le troisième lien. C'est quoi ça, le troisième lien? Si on met de la chenoute, il faut absolument le tasser parce qu'on n'a plus le contrôle.
Ouais, ce que tu
c'est
veux
pas
dire,
dans l'air du temps. Là.
Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'en gros, on est dans un système où on ne tolère les projets ou les avenues de société que quand elles sont imposées par le haut, si ça émerge d'une volonté populaire ou de ce que les gens veulent, leurs préoccupations, c'est pas important parce que ça va contre le... Tout ça rentre un peu dans la même ligne.
Sauf si c'est ça, marqué que je les considère comme dans le haut aussi, sauf si ça vient d'organismes subventionnés supposément représentant les volontés du peuple, mais qui sont souvent gangrenés, genre des conseils de quartier, des organismes environnementaux, ou je dirais même certaines chambres de commerce. Fait que, on prend cette excuse-là pour dire que ben on parle aux gens, regardez, nos organisations locales ont été consultées. Ouais, mais c'est ça.
Le système se défend un peu de par lui-même. Là. On a tout compris cet aspect-là. Mais bref, excellent article.
À surveiller. C'est une dérive qui est à surveiller, qui est pas dont on parle pas vraiment. C'est-à-dire vraiment le je te répète, là, l'idée que la démocratie est un risque pour la santé mentale parce que c'est confrontant, parce que ça nous expose. Hein. Ça, quand je dis la démocratie, c'est être exposé à de la désinformation, c'est être exposé à des points de vue offensants. Donc, on est quand même déjà dans cette ambiance qui tend à dire donc la santé mentale des élus serait plus importante finalement que le clash démocratique. Puis on l'a vu durant la crise des camionneurs, ça a été vraiment un précurseur. Donc, on ferme la société canadienne pendant 2 ans pratiquement et on se retrouve avec des fonctionnaires fédéraux qui ne tolère pas le bruit de klaxon. Probablement que c'était désagréable, effectivement, être à Ottawa durant cette période-là. Sauf que vous comprenez, si le prêt à payer de 2 ans de régime autoritaire, c'est des klaxons et de la musique techno, comprenez que c'est une aubaine. T'sais, vous comprenez que ce n'est pas des obus qui vous tombent sur la tête. Donc, on était dans ça. C'est-à-dire, la démocratie, ah, c'est désagréable, mais ça fait du bruit, c'est bruyant, la démocratie.
Ouais.
On serait-tu bien si on n'était pas en démocratie, finalement, et s'il s'agissait seulement de, mais, finalement, les écarter les dissidents. Donc, c'est vraiment un dérapage qui est extrêmement dangereux, là. Donc, les messages subliminaux qu'on envoie actuellement au Québec, en particulier en Occident, sont vraiment à surveiller. Et c'est pas les grands médias qui vont vous en parler, je peux vous le dire.
À quand une chronique au droit au silence, si ça n'a pas déjà été écrit?
Oui, ça a probablement déjà été
écrit. Plein de fois. Écoute, ça, c'est les chalets à côté, là. C'est les...
Ouais.
Il y a quelque chose de... marcher dans le bois, je suis tout seul là.
Avec mon livre.
La retraite dans l'arrière-pays.
Il y a quelque chose de paradoxal un peu, il y a quelque chose de complètement paradoxal là-dedans, qu'une bonne partie des gens qui promeuvent, qui font la promotion de ce statu quo-là et de cette société chalet-là, ben ce sont des gens qui, historiquement, dans leur mouvance de gauche, ont visé à briser des tabous, à justement bousculer des safe spaces. Tu sais, je veux dire, des personnages iconiques de la culture de gauche, par exemple, comme David Bowie qui arrivait habillé en femme ou ce genre de truc-là, tu sais, pour briser des tabous, des totems, tout ça. Je sais
la
pas.
La transgression.
La transgression, c'est quelque chose d'inhérent normalement à la culture de gauche.
Oui.
C'est-à-dire transgresser la société traditionnelle pour essayer de faire bouger l'échiquier, de sortir d'une espèce de boîte mentale très, tu sais, qui encarcane les gens dans une seule manière d'être et de faire. Mais là, c'est comme si on est dans un genre de... Ben, je t'en avais déjà parlé dans le grand entretien qu'on avait fait ensemble. Je parlais du virage réactionnaire de la gauche. Mais c'est un peu là qu'on est rendu. Tu sais, si on passe de la transgression au chalet, finalement. Là. On passe de... Tu sais, c'est la dénonciation permanente de la microagression. Mais je suis désolé, mais la culture de la transgression était par définition micro-agresser les autres autour de nous. Là. Il est bousculé dans notre manière d'être.
Il n'y a plus vraiment de gauche. La gauche, c'est très conflictuel. Même le marxisme, c'est vraiment la confrontation, évidemment, entre le prolétariat et les forces économiques. Il y a un conflit inhérent là, au marxisme.
Oui,
on est en train de nier la diversité d'opinion, la conflictualité qui est inhérente à une société civile forte. Donc, la gauche qui, finalement, est devenue un peu apolitique, là, puis qui est sombrée aussi dans un psychologisme, dans le psychologique. C'est-à-dire que quand vous lisez, par exemple, le livre de Catherine Dorion, qui est vraiment un cas d'espèce, vous lisez un livre de 300-400 pages, là, et là, tu termines ça, puis tu dis, la fille, l'auteur, pour être poli, là, n'a jamais parlé de cause politique. Tout ce dont elle parle, c'est elle se sent micro-agressée constamment par son milieu de travail, par la performance. Elle est contre la mondialisation néolibérale, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans le contexte de son livre. Donc, jamais elle ne définit clairement ce qu'est son combat. T'sais, es-tu avec les Autochtones? Est-ce qu'elle se bat pour l'environnement? Quand même une cause qui est une vraie cause, bien définie. Non, Mme Dorion ne se bat que pour elle-même, contre ses démons intérieurs, pour son propre safe space personnel. On est vraiment dans le psychologique, c'est-à-dire, c'est ce qui me fait dire dans des textes que le wokisme est peut-être plus psychologique que politique. C'est-à-dire, on est vraiment, et on le voit aussi sur Netflix, on est dans une époque vraiment psychologisante et psychologique. C'est-à-dire, tout est psychologique, tout est micro-agression. À tel point que les élus réclament un safe space. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être confrontés. C'est incroyable.
Et tout est maladie et problème. Il y avait encore un article il y a quelques jours qui nous parlait de la... C'était un très bon article, pour une fois, dans le journal Le Devoir, qui parlait de la surmédicalisation des jeunes garçons au Québec, comme quoi qu'on se fait croire qu'on est meilleur en diagnostic qu'ailleurs, mais que les chiffres sont complètement délirants. Là. Il y a genre 3 fois plus de jeunes garçons au Ritalin et au Concerta au Québec qu'il y en a dans les autres provinces. Il y a une pression de la part du corps du corps d'enseignants des milieux scolaires pour dire aux parents, en gros, faites-le voir par un médecin, votre enfant, il bouge, donc il a besoin d'être médicamenté. T'sais, c'est rendu que le jeune enfant qui existe, qui en lui, il y a de la pulsion de vivre, il y a le goût de vivre, il y a le goût de bouger. C'est une maladie être comme ça. Il faut le soigner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, ça en dit long sur une société, sur la médicalisation de l'enfance.
Ouais, c'est un grave problème.
Ouais. C'est qu'en gros, l'enfant, le fait que l'enfant ait le goût de vivre et qu'il ne soit pas assis sur une chaise de manière
amoureuse. C'est ce qu'on a appelé l'hyperactivité. Là, mais, c'est ça. Mais oui, la tendance au Québec, on n'a vraiment plus un regard naturel sur les choses. Là, on vit une existence hermétique, là, sérieux. Puis même l'été. Tu sais, c'est le monde recours à l'air climatisé. Bon, je ne suis pas contre l'air climatisé, mais les gens sont devenus tellement intolérants à leur environnement naturel, à la vie comme telle. C'est-à-dire, dès qu'il fait 16 degrés, le monde va se mettre dans l'air climatisé. Tu sais, c'est comme censurer le climat. Tu te dis, là, tu as besoin d'un safe space parce que tu n'es pas toléré 17-18 degrés. Je sais que ça, c'est un commentaire là, que les gens vont pas comprendre tout à fait, mais quand vous venez du Mexique, tout ça, il y a des choses qui nous frappent. Tu reviens l'été au Québec, tu es dans une glacière, tu rentres au IGA, Chris fait moins 42, là, tu te dis « what the fuck, les gars, man, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? » C'est vraiment spécial. Là. Donc, c'est l'espèce de safe space permanent, c'est bien spécial. C'est vraiment spécial. Et c'est tout est safe space, c'est une existence hermétique.
Ouais. C'est assez incroyable.
En tout cas, bref, vous comprenez l'idée, non?
Ouais. Parlons brièvement, pour le temps qui nous reste, d'un endroit où c'est zéro, un safe space, en fait. C'est probablement l'inverse d'un safe space. Vous avez publié à Libre Média Haïti, la stratégie du chaos. Donc, c'est un reportage, là, dans le fond, que vous avez fait, écrit un texte pour l'accompagner. Honnêtement, je le dis en toute transparence pour les auditeurs, j'ai vu un peu que Haïti était dans le cœur de l'actualité pour ce qui s'y passait en ce moment. Je connais dans les très grandes lignes un peu le contexte, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça. Ouais. Toi, tu es plus au courant que moi. Fait que je me suis abstenu d'en parler. Pas mal toute la semaine en me disant ben jeudi ça va être un bon moment pour en jaser avec Jérôme. Fait que c'est quoi qui se passe à Haïti?
Ouais, ben en gros, c'est une dégringolade assez incroyable depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Le pays, je veux dire, c'est vraiment une catastrophe incroyable. Ça fait longtemps là, que c'est une catastrophe à Haïti, on s'entend là. Mm-hmm. Depuis les séismes, etc. Mais depuis l'assassinat du président, je pense que c'est le quatrième président haïtien assassiné en passant, en juillet 2021, le pays s'est vidé, évidemment, de très, très nombreux migrants qui entrent dans plusieurs pays d'Amérique latine. Mais c'est un chaos, vraiment, un sommet de chaos, un paroxysme de violence et de destruction qui est inimaginable. Qu'est-ce qu'on va faire avec Haïti? J'ai aucune idée. Là. En fait, là, il va y avoir une force internationale, c'est-à-dire des casques bleus du Kenya qui se font toujours attendre pour essayer de contenir les bandes armées qui ont pris vraiment le contrôle du territoire. Donc, en gros, les gangs de rue contrôlent Port-au-Prince et on les soupçonne évidemment d'être le bras armé du gouvernement. Du premier ministre Ariel Henry, qui est lui-même soupçonné d'avoir participé à l'assassinat du président. Donc ça, c'est super sympathique. Et aussi, ça, on a appris la semaine dernière que la femme de l'ex-président, elle aussi est impliquée dans l'assassinat de son mari.
Ouais, un bon potentat, là.
Un bon Game of Thrones version Haïti, c'est...
C'est quelque chose. Donc, évidemment, puis il y a toujours la pression des États-Unis. Donc, Haïti qui ne se gouverne pas vraiment elle-même, la perle des Antilles. Je ne sais pas si Haïti, c'est féminin ou masculin, en tout cas, bref. Donc, ce qui se passe en Haïti, c'est le chaos, les gangs de rue, viol, intimide, extorsion. C'est vraiment des pénuries aussi en tout genre, médicaments, essence, les gangs de rue contrôlent l'approvisionnement en essence dans plusieurs coins du pays. Donc, on essaie à Libre Média, on a essayé d'y voir plus clair. Et ce que me raconte Rome Chantal, qui est un spécialiste de la Chine, mais aussi d'Haïti, qui lui est haïtien d'origine, c'est que selon lui, les gangs de rue sont le chaos, en fait, alimenté pour justifier non seulement l'envoi de la force internationale, mais pour maintenir le président au pouvoir. Ça, c'est une manière pour le président du premier ministre, parce qu'il n'y a plus de président depuis juillet 2021, c'est une manière pour le premier ministre de De justifier un peu son rôle. Donc, une stratégie assez classique là, qui est très américaine, en fait. Là, les États-Unis ont été quand même très bons pour foutre la marde dans plusieurs pays, là, pour le dire poliment. Et ça, donc la stratégie du chaos. Et les États-Unis, ben c'est ça. Grosso modo, c'est eux qui contrôlent Haïti, là, et qui désignent les présidents, etc. Donc,
quel intérêt ont les Américains à ce que cette île-là, il n'y a jamais rien qui fonctionne dessus? Je veux dire, ça pourrait, à la limite, rendu là, leur intérêt, ce serait plutôt d'en faire un territoire comme, là, par exemple, les Porto Rico.
Ça.
Où il y a au moins une gouvernance à peu près fonctionnelle, un niveau de vie plus élevé. Je ne dis pas que c'est parfait à Porto Rico, là, comprenons-nous bien. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que Porto Rico, ce n'est pas Haïti. Là.
Ouais, l'intérêt, c'est toujours des ressources naturelles, ça c'est sûr, l'extractivisme, puis tu sais, gars, l'ancien président, lui, il avait fait fortune dans les bananes, puis tu sais, il y a toujours les fruits, les légumes, non mais c'est vrai, en Amérique latine, c'est des commerces très forts, même au Mexique, vous avez une guerre de l'avocat, c'est-à-dire, il y a des cartels qui se pointent sur des terrains, ils disent, vous cultivez du maïs, à partir de demain, votre terrain, c'est le nôtre, et on met des avocats, puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, on vous tire une balle dans la tête. Juste les avocats au Mexique, c'est pas loin de provoquer des conflits armés. Là. Donc, il faut quand même. Donc, les bananes, ça a l'air super, ça a l'air rigolo, là, mais il y a quand même des luttes de pouvoir pour des fruits. Là, dans l'Amérique latine, ça va loin. L'autre intérêt que les États-Unis auraient, je te dirais, c'est que Haïti ne se tourne pas vers la Chine jamais, parce que ça, c'est toujours le risque. En même temps, les États-Unis perdent beaucoup de terrain en Amérique latine. C'est de plus en plus vrai. Là, avec Milei en Argentine, ça va peut-être changer un peu, mais pas nécessairement, parce que le Brésil reste de gauche avec Lula. Puis le Mexique actuel est de gauche aussi, mais le Mexique, c'est plus compliqué parce que l'économie mexicaine est très liée à celle des États-Unis. Mais l'intérêt des États-Unis, c'est d'abord peut-être des ressources naturelles, sans tomber dans les théories du complot, mais surtout que l'île ne se tourne pas vers la Chine. Ça, c'est un réflexe un peu naïf aussi qu'ont des pays pauvres. Quand ça va mal, ah ben là, on n'aime plus les Américains, puis on essaie de se tourner vers la Chine ou la Russie. Et là, il y a des manifestations où des gens vont brandir des drapeaux de la Russie. Je pense pas que la Russie va sauver Haïti, on s'entend, là, ça n'arrivera pas. Là.
Je pense pas que personne va sauver Haïti, c'est ça la triste réalité. Tu sais, moi, j'ai un de mes oncles qui est retraité maintenant depuis plusieurs années. Il était comme policier à faire de la formation en Haïti il y a longtemps. Là. Et c'était essentiellement les mêmes problèmes dont on parle aujourd'hui. Là. C'est une absence de structure. C'est une absence de les gens ne réalisent pas à quel point, en Occident, il y a des structures qu'on prend pour acquis qui font en sorte que les choses fonctionnent. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais des fois, tu as certaines ONG, par exemple, qui font dans des pays africains ou dans des endroits comme Haïti, et là, ils se posent la question de comment on fait pour sortir de la pauvreté ici. Là. Et là, il y a des constats aussi banals que entre telle entreprise et tel village, il n'y a tout simplement pas de route. T'sais, ici, on ne se pose pas ce genre de questions-là. Il y a une entreprise qui produit telle affaire, mais pour sortir les marchandises, il n'y a même pas de route. C'est dans le bois. Là. Les gens ils sont au travers de la forêt, de la jungle, appelez ça comme vous voulez. Là. Donc, on part tellement de loin pour certains endroits. Mais de ce que j'avais compris, Haïti, faut revenir à la base de la base. Il y a manque de structure et d'organisation qui est, un mot à la mode, c'est systémique. Là.
C'est systémique. Non, on ne sait pas trop. Puis bon, moi, mon intervenant avec qui j'ai parlé, lui pense que il faudrait mettre sur pied un gouvernement d'experts indépendants, haïtiens, un gouvernement de transition. Il pense que c'est la seule manière de sauver le pays, entre guillemets. Mais sûr, il n'y a pas de solution miracle. Mais tu sais, écoute, Haïti, récemment, il y avait un président, Michel Martelly, qui est grosso modo un chanteur de reggaeton. Tu sais, le gars, c'est un chanteur d'une musique populaire dont j'ai oublié le nom, là, qui est une espèce de mélange de cumbia et de reggaeton, en tout cas, à ce que je connais. Là. Un spécialiste des genres musicaux des Caraïbes. Mais le gars, c'est un gars qui était avec sa chemise hawaïenne ouverte jusqu'au nombril qui devient président. C'est absolument pas sérieux. Là. Récemment aussi, il y a eu un chanteur, là, comment il s'appelle, là, qui voulait devenir président d'Haïti, puis ça n'a pas marché. C'est un gars très connu. Là. C'est pas Wyclef Jean qui voulait devenir président d'Haïti.
Ouais.
Là, t'en as un. C'est bien spécial. Donc, ce sont des marionnettes. Ces gars-là sont des marionnettes qui sont là pour enrichir leur clan temporairement jusqu'à temps de se faire assassiner ou non par un commando très louche de Colombiens qui a passé des appels en Floride. La Floride qui est une plaque tournante en passant du terrorisme en Amérique latine d'État. Là. C'est-à-dire, la Floride, c'est d'abord les résistants cubains. Donc, il y a un grand nombre d'opérations anticastristes qui ont été organisées en Floride. Ouais. Est-ce qu'on a pu... Il y a des gens qui pensent que les États-Unis ont fait assassiner le président ici, en passant. Là, c'est pas une théorie non plus totalement loufoque ni complotiste.
La CIA a déjà assassiné le président chilien. Là, fait que, et puis plusieurs autres avant. Fait qu'ils ont comme pas mal de précédents.
Oui, puis c'est pas mal le plus gros, le Chili, loin d'Haïti. En tout cas, bref, pour les gens curieux, allez voir l'entrevue là, sur YouTube, allez voir l'article pour donner une... Puis ça... Je trouve ça bon, l'actualité internationale aussi, parce qu'au Québec, on a un regard tellement naïf sur les gouvernements. T'sais, on n'est pas conscient à quel point la politique, c'est les rapports de force, c'est l'arène. C'était quand je disais tantôt du conflit. Tu sais, le politique, c'est ça. Là, c'est le lieu où s'affrontent des acteurs différents. Puis nous, on a une vision tellement naïve et angélique, ça va bien aller. C'est l'État CPE. Voyons, le gouvernement veut juste ton bien. Je dis pas que c'est qu'on a des trucs... Des complots aussi graves au Québec, mais je veux dire, à petite échelle, le gouvernement ne veut pas nécessairement votre bien. Là, tu sais, de quoi vous parlez? Là, dans le monde, il n'y a personne qui pense ça vraiment. Là, tu sais, c'est la méfiance envers l'État devrait être quelque chose de naturel. C'est un bon réflexe. Ça ne veut pas dire de détester le gouvernement, ça ne veut pas dire de faire une insurrection contre le gouvernement, mais si vous pensez que les États, de manière générale, veulent votre bien, ils n'avaient absolument pas compris la politique. Tu sais, c'est tellement naïf. C'est un romantisme bisounours. Ben,
en fait, c'est ce qui est incroyable, c'est une extrême naïveté par rapport à chez soi, mais un jugement extrêmement sévère pour ailleurs.
C'est-à-dire, aussi, moi,
un exemple, moi, qui
paradoxalement.
Un exemple qui me fascinait dans les derniers temps, c'est ça faisait 5 minutes qu'on savait que Navalny était décédé en Russie, que bon, vous demandiez à n'importe quel Québécois que vous croisez ou Nord-Américain, tout le monde savait déjà que c'était le régime russe, que c'était Poutine, qu'on a éliminé un opposant du régime. Mais je ne sais pas, 6 ans plus tard, la majorité des gens pensent encore que Jeffrey Epstein s'est pendu dans sa prison. Là. Et que tout ça est absolument normal.
Il y a des gens qui pensent ça,
oui. Oui, il y a des gens qui sont... je veux dire, c'est encore vu... Officiellement, c'est une théorie du complot, là, dire qu'il a été tué.
Il y a tellement de complots, c'est-à-dire, il y en a tellement. J'ai fait un article la semaine dernière sur le président mexicain qui accuse YouTube de censure. Et le New York Times est soupçonné d'avoir inventé une fake news sur le président mexicain, là. Tu sais, quand les gens pensent que les journaux, ça sert juste à propager la vérité absolue. Puis même le gouvernement américain a reconnu que, bon, il n'y avait pas d'enquête là, qui montrait que le président mexicain était lié à des narcotrafiquants. Puis ça, c'était pour partir probablement le hashtag narco-presidente. Et peut-être, et là, on sait que le président mexicain, lui, son mandat tire à sa fin. En passant, le Mexique, je le rappelle souvent, là, c'est un pays de 130 millions de personnes, c'est la deuxième économie d'Amérique latine, ce n'est pas seulement la plage. Là, des fois, je vois ce qu'on peut lire même sur des pages anonymes. JBG vit dans un pays de touristes. T'sais, ça, c'est des gens de gauche qui disent ça. À quel point vous êtes des attardés, puis vous êtes des racistes aussi. Là, parce que... ça, c'est une parenthèse.
Moi, j'ai pas exploré le Mexique profond comme toi, là, mais la dernière fois où je suis allé, je suis sorti de où j'étais, qui était un endroit de plage, effectivement. Là. Puis j'ai fait traverser le Yucatan pendant comme 3 heures. Là. On traversait deux ou trois États. Là. Puis aussitôt que tu sors un peu de certaines villes, c'est presque le Moyen Âge. T'arrêtais dans un endroit où tu sais le gars qui conduit l'autocar, il y a un gun. Là. Puis autour de toi, tu sens que t'es comme pas vraiment dans un endroit là, où c'est si safe que ça.
C'est un pays contrasté. Mexico, très cosmopolite. Là,
c'est ça, mais entre les villes, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y a des zones de rurales.
De non-droit.
Ben ouais, puis des zones rurales de pauvreté quasi extrêmes. Fait que juste de les gens qui disent c'est un pays de touristes, je veux dire, vous êtes débiles. Là. C'est comme penser.
Ah
oh,
oui, ok,
que
je comprends.
Ville,
oui,
t'sais, je dis, c'est,
ça part de là. Oui.
T'sais, c'est comme les gens qui disent ben, Québec, c'est une ville de tourisme. Tu dis, ok, parfait, il y a quelques touristes non,
mais,
dans le vieux Québec.
Ça me fait rire parce que.
Temps, mais je sais pas.
Parce que les choses les plus racistes que je lis souvent, c'est sûr, puis je les lis pas. C'est, les gens m'envoient des captures d'écran parce que moi, j'ai pas le temps de consulter ces pages d'attardés mentaux qui n'ont rien à faire de leur vie. Là. Mais comme les gens. M'envoie des captures d'écran. Bon, des fois, ah, les gens disent ça de toi. Bon, okay, j'avais vu, là, mais j'avais compris. Puis, mais les choses que les plus racistes qu'on peut lire sont souvent sur les pages d'extrême gauche anonymes. Bref, je finis la parenthèse pour finir sur des complots. Donc, on soupçonne le New York Times d'avoir contribué à vouloir partir le hashtag narco-presidente parce que la candidate du président mexicain se présente cet été. L'élection a lieu cet été et c'était pour peut-être avoir l'autre hashtag narco candidata, c'est-à-dire narco président, narco candidat, donc une manière de salir le président et sa candidate par les États-Unis qui leurs intérêts sont moins bien représentés par la gauche mexicaine que par la droite mexicaine. Donc, tu sais, quand je dis la politique, c'est sale. On est dans une opération de communication publique qui est quand même assez cohérente. Vous lancez une fake news par le New York Times, vous lancez le hashtag narco-président pour lancer le hashtag narco-candidate. Et là, vous avez évidemment une campagne de diffamation parfaite pour nuire à la candidate du président sortant. Donc ça existe dans le monde. Là. Les bots, tout ça, les interventions des États pour s'ingérer dans les campagnes électorales d'autres pays, ça existe. Si le Québec est indépendant, ça existerait aussi. Le Québec a beaucoup d'eau. Le Saint-Laurent, c'est probablement un corridor géostratégique extrêmement important. Tu sais, je ne sais pas ce que les Canadiens aussi pensent, ce qu'ils vont faire avec l'eau. Il manque beaucoup d'eau dans le monde, c'est vrai. Là, ça. Au Mexique, tu ne peux pas faire ton lavage partout. Tu n'as pas d'eau, dans ta pour faire le lavage. Donc, je ne sais pas si les gens... Imaginez les richesses qu'on a. Tu sais, nous, au Canada, on n'a quasiment plus d'armée, quasiment démantelé. Un territoire immense. Oui,
en Ukraine, notre armée. Notre stock est en Ukraine.
En tout cas, bref, on est d'une naïveté absolument préoccupante. C'est inquiétant à quel point on est naïf au Québec, au Canada aussi. On a Mélanie Joly comme ministre des Affaires étrangères. C'est juste ça, là. Tu te lèves le matin... Puis là, tu te dis, ailleurs, je me rappelais plus que Mélanie Joly était ministre des Affaires étrangères. Tu peux être recouché, là. Je dis, mais écoute, man, ça n'a aucun bon sens, là.
Ben oui, mais on est, je veux dire, ça fait 8 ans. On a 8 ans de règne d'un prof de kayak et de théâtre.
Ah, mais Trudeau, ça, c'est le sommet, là.
Je veux dire, tu sais, à la limite, qu'un gars comme Trudeau puisse être élu un peu par accident parce que, bon, il est jeune, il y avait une vague, tout ça. Tu dis, bon, OK, c'est tel que tel. Moi, je veux dire, j'en veux pas à la population de l'avoir choisi après un 10 ans de Harper, tu sais, qui commençait à être usé, tout ça. Ça va, là, c'est normal. Mais qu'on l'ait conservé pendant 8 ans avec absolument aucun programme, aucune idée. Personne n'est capable de nommer une seule réalisation à part le fait d'avoir perverti au wokisme l'ensemble des institutions. Ce sera son legs politique, c'est ça. C'est d'avoir perverti hier encore, il y a des gens qui nous envoyaient des images d'une base militaire en Ontario où c'est un gars qui faisait la job qui envoyait les photos. Les militaires installaient des tampons dans les toilettes pour hommes, là. Je veux dire, c'est ça l'héritage de Trudeau. Là. C'est ce qu'il a fait
du Canada. Déminage trans en Ukraine.
Ben oui,
millions.
Ben oui, parce que somehow, ce sera un progrès d'envoyer se faire sauter sur des mines des minorités sexuelles.
Des mines arc-en-ciel.
Ça prend une explosion paritaire. Là. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point.
Pour qu'il y ait autant de débris d'un côté que de l'autre.
Oh oui, c'est, on est dans la.
L'Ukraine est un pays très conservateur aussi à sa façon. Ouais, tu sais, c'est. T'sais, vous pensez que c'est l'Ukraine, c'est Safia Nolin? De quoi vous parlez?
Oui, mais ça, puis tu sais, on en a déjà parlé, la naïveté de... c'est le Québec, oui, mais l'Occident en général, tu sais, quand tu vois la mouvance de gauche américaine, tu sais, là... Genre,
oh oui, c'est l'Occident en général.
Tu sais, les trans pour la Palestine ou je sais pas quoi, tu te dis, mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux, là? Je veux dire, c'est en 5 minutes là-bas, vous êtes démembrés, on vous promène dans des derrières de boîtes de pick-up, il y a un barbu avec une kalachnikov qui se filme en riant. Là. C'est ça la réalité de ce coin-là du monde. Est-ce que vous êtes sérieux, là? Ah, mais c'est la convergence des luttes, ouais. Ça m'a amené, ça a plus l'air de la convergence des imbéciles que d'autres choses, là. Il faut se rendre à l'évidence. C'est ça, on renvoie les gens au site web de Libre Média, donc libre avec un trait d'union media.com ou dans votre navigateur, là, Libre Média, vous allez tomber dessus. Il y avait le premier texte dont on a parlé qui était ton éditorial de la semaine sur la démocratie, c'est trop dur. Il y a évidemment ce reportage-là, Haïti, la stratégie du chaos. Donc, très intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur ce pays que tout le monde connaît sans connaître, finalement. Hein, on sait tous si tout le monde...
Mais on est lié par la francophonie. On a beaucoup d'Haïtiens, c'est pour ça, c'est comme un pays frère.
C'est ça.
Mais c'est ça. Moi, mettons, si je voulais faire un reportage là-bas à caméra, ça me prend carrément des gardes du corps, là, juste avec ma face. Sors de l'aéroport avec une... Puis même, au Mexique, dans certains coins, t'es minorité ethnique, identifiée, signe de pièce d'en face. Donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais ça me prendrait vraiment, je pense, au moins un guide de la sécurité solide pour débarquer à Port-au-Prince, là, parce que si t'es blanc, écoute, t'es vraiment une cible. Enfin...
Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins recommandé, comme on dit, à moins d'être
ma bien femme préparé. Ma femme ne
voudra pas. Non, je pense qu'elle ne penserait pas que ta femme veuille. Donc, c'est ça. Donc, on renvoie les gens au site web de Libre Média, ainsi que ne pas manquer le Libre Podcast, donc disponible sur pas mal toutes vos plateformes. Et nous, on se reparle dans deux semaines, Jérôme.
Oui, excellent. Merci, les gars. Toujours un plaisir.
Yes, à bientôt.